James. Un portrait de femme. Chapitre 49. Madame Merle n'avait pas paru au palais Rocanera en cette soirée de jeudi dont je viens de rapporter quelques incidents, et Isabelle, si elle avait remarqué cette absence, n'en avait pas été surprise. Il s'était passé entre elles certains faits, mal indiqués pour encourager les relations, et dont l'appréciation exige que nous jetions un regard en arrière. On se souvient que Madame Merle était rentrée de Naples peu après le départ de Lord Warburton, et qu'à sa première rencontre avec Isabelle, qu'elle était, il faut le reconnaître en toute justice, venue voir sans tarder, ses premiers mots avaient eu trait aux faits et gestes de ce gentilhomme dont elle semblait tenir sa chère amie pour responsable. « Ne me parlez pas de lui, je vous prie, » dit Isabelle pour toute réponse. « On en a trop parlé déjà. » Madame Merle pencha un peu la tête de côté, en manière de protestation, et sourit du coin gauche de sa bouche. « Vous, peut-être, mais rappelez-vous qu'à Naples, je n'étais au courant de rien. J'espérais le retrouver ici et pouvoir féliciter Pensée. » « Vous pourrez encore féliciter Pensée, mais pas d'épouser Lord Warburton. »« Comme vous dites cela, vous savez bien que j'avais mis mon cœur à ce mariage, » déclara Madame Merle avec une chaleur véritable, qui n'excluait pourtant pas un accent de bonne humeur. Isabelle fut un peu déconcertée et voulut répondre sur le même ton. « Il ne fallait pas aller à Naples, alors. Vous auriez dû rester ici pour surveiller l'affaire. »« J'ai eu trop confiance en vous. Croyez-vous qu'il soit trop tard ?»« Demandez-le plutôt à Pensée, » conseilla Isabelle. « Je lui demanderai ce que vous lui avez dit. » Ces mots semblaient justifier la réserve défensive adoptée par Isabelle dès qu'elle s'était aperçue que son amie prenait une attitude critique. Or, nous savons que Madame Merle avait fait jusque-là montre d'une extrême discrétion. Elle ne critiquait jamais et redoutait évidemment de faire figure d'intruse. Elle s'était apparemment ménagée pour cette occasion puisque, ce jour-là, elle montrait une dangereuse vivacité de regard et un air d'irritation que son calme admirable même ne savait pas dissimuler. Elle venait de subir une déception qui surprenait Isabelle, car notre héroïne ne se doutait pas de l'intérêt passionné que son amie prenait au sort de Pensée, et elle manifestait son désappointement d'une façon bien faite pour exciter l'inquiétude de Mrs. Osmond. Plus clairement que jamais, Isabelle entendait une voix froide et moqueuse, sortie d'on ne sait quelle région du vide obscur qui l'entourait, chuchoter que cette mondaine brillante, nette et forte, cette incarnation du pratique, du personnel, de l'immédiat, était un agent puissant de sa destinée. Elle la touchait de plus près qu'Isabelle ne l'avait soupçonné, et cette proximité n'était plus le hasard bienveillant qu'elle s'était longtemps imaginé. Elle avait cessé de croire au hasard le jour même où elle avait été frappée de la façon dont se comportait, dans l'intimité, cette femme étonnante et Gilbert Osmond. Aucun soupçon défini n'était encore venu remplacer cette croyance, mais elle avait appris à considérer son amie d'un œil différent, à réfléchir qu'il y avait plus d'intention dans sa conduite passée qu'elle ne l'avait soupçonnée tout d'abord. Oui, elle nourrissait des intentions bien certaines et bien définies, se disait Isabelle, qui croyait sortir d'un long cauchemar. Comment avait-elle acquis la conviction que les intentions de Madame Merle n'étaient pas bonnes? C'est par une étrange méfiance qui venait depuis peu de prendre corps en elle et qui allait de pair avec l'étonnement significatif éveillé par l'intérêt passionné que prenait son amie au sort de la pauvre Pensée. Elle y décelait une hostilité qui l'avait aussitôt mise sur ses gardes, une vivacité singulière qui n'avait en somme jamais manqué, malgré toutes ses professions de prudence et de délicatesse, aux entreprises de Madame Merle. Que celle-ci répugnât à intervenir, c'était évident, mais seulement tant qu'elle n'avait pas sujet de le faire. Le lecteur pourrait accuser Isabelle de se laisser aller trop vite sur un simple soupçon, à douter d'une sincérité affirmée par maintes années de bons offices. Elle s'y abandonnait vite, en effet, et à bon droit, car une étrange certitude se faisait jour dans son esprit. L'intérêt de Madame Merle était identique à celui d'Osmond. Cela suffisait. « Je doute que Pensée puisse vous dire quelque chose qui vous irrite davantage, » fit-elle en réponse à la dernière observation de sa compagne. « Je ne suis pas irritée du tout. J'ai seulement un grand désir de rétablir la situation. Croyez-vous que Warburton se soit définitivement retiré ?»« Je ne puis le dire. » « Je ne vous comprends pas. Cette affaire est finie, n'en disant rien de plus, si vous voulez bien. Osmond m'en a beaucoup parlé, et je n'ai plus rien à ajouter sur le sujet. Je ne doute pas, ajouta Isabelle, qu'il n'ait grand plaisir à en discuter avec vous. Je sais ce qu'il en pense, il est venu me voir hier soir. Dès votre arrivée? Alors vous savez tout ce qui vous intéresse, et n'avez pas besoin de venir m'en demander plus long. Ce ne sont pas des nouvelles que je cherche, c'est de la sympathie. J'avais pris à cœur ce mariage dont l'idée, à l'inverse de la plupart des choses, satisfait l'imagination. La vôtre, évidemment, pas celle des intéressés. Voilà une façon de dire que je ne suis pas intéressée à l'affaire. Directement, non, je l'admets, mais une vieille amie comme moi ne peut s'empêcher de prendre part aux événements. Vous oubliez que je connais Pensée depuis si longtemps, et vous jugez évidemment que vous êtes au nombre des intéressés. Non, voilà qui est fort loin de mon esprit, et je suis bien excédée de toute cette histoire. » Madame Merle eut une hésitation. « Ah oui, vous avez fini vos manœuvres. »« Prenez garde à ce que vous dites, » conseilla très gravement Isabelle. « Oh, j'y prends garde, et peut-être jamais plus que lorsque cela se voit le moins. Votre mari vous juge très sévèrement. » Isabelle ne répondit pas sur le champ tant elle suffoquait d'amertume. Ce qui la frappait le plus, ce n'était pas tant l'insolence de la révélation qu'Osmonde fût allée se plaindre de sa femme à Madame Merle, car elle avait vu là sans retard une insolence préméditée. Madame Merle était très rarement insolente, et seulement lorsque c'était nécessaire. Or, la chose n'était pas nécessaire en l'espèce, ou du moins ne l'était pas encore. Ce qui toucha Isabelle comme une goutte d'acide corrosif sur une plaie ouverte, c'est l'idée qu'Osmonde la déshonorait en parole aussi bien qu'en pensée. « Voulez-vous savoir comment je le juge, lui ?» demanda-t-elle enfin. « Non, parce que vous ne me le diriez jamais, et il me serait pénible de le savoir. » Le silence tomba, et pour la première fois depuis qu'elle se connaissait, Isabelle fut excédée de la présence de Madame Merle. Elle eût voulu la voir partir. « Souvenez-vous de la séduction de pensée, et ne désespérez pas, » fit-elle soudain, avec l'espoir que ses paroles allaient clore l'entretien. Mais Madame Merle n'était pas femme à se laisser congédier. Elle se contenta de serrer son manteau autour d'elle, et ce geste répandit dans l'air un parfum subtil et agréable. « Je ne désespère pas, je me sens encouragée, et ce n'est pas pour vous gronder que je suis venue à vous, c'est pour vous apprendre la vérité, si possible. Je sais que vous me la direz si je vous la demande, c'est un immense avantage avec vous de compter là-dessus. Vous ne pouvez savoir quel réconfort me procure cette conviction. » « De quelle vérité parlez-vous ? » demanda Isabelle, intriguée. « Voici. Lord Warburton a-t-il changé d'avis spontanément, ou parce que vous le lui avez suggéré ? Pour son propre plaisir, si vous voulez, ou pour le vôtre ? Pensez à ce qu'il faut que je garde de confiance en vous, bien que j'en ai perdu un peu, continua Madame Merle avec un sourire, pour vous poser pareille question. » Elle considéra son amie pour juger de l'effet de ses paroles, puis reprit. « Voyons, ne soyez pas héroïque, ne soyez pas déraisonnable, ne vous offusquez pas. Il me semble que je vous fais honneur en vous parlant ainsi. Je ne connais pas d'autre femme avec qui je m'y hasarderais. Je n'aurais pas le moindre espoir d'entendre une autre femme me dire la vérité. Et ne voyez-vous pas combien il est préférable que votre mari la connaisse ? Il faut avouer qu'il ne semble pas avoir usé du moindre tact pour la pénétrer et s'est laissé entraîner à des suppositions gratuites. Cela n'empêche pas qu'il serait intéressant pour lui de savoir, pour l'avenir de sa fille, ce qui s'est passé au juste. Si Lord Warburton s'est tout simplement lassé de la pauvre enfant, c'est un incident que l'on ne peut que déplorer. S'il a renoncé à elle pour vous faire plaisir, il en va tout autrement. C'est encore dommage, bien que tout différent, car dans ce cas, vous vous résigneriez peut-être à passer outre et à voir simplement votre belle-fille mariée. Laissez-le libre, qu'il nous revienne. » Madame Merle s'était exprimée d'un ton décidé, en considérant Isabelle comme pour s'assurer qu'elle pouvait continuer sans péril. À mesure qu'elle parlait, Isabelle pâlissait et serrait plus fort les mains sur ses genoux. Ce n'était pas parce que Madame Merle avait enfin jugé le moment propice pour se faire insolente, telle n'était pas à ses yeux l'horreur la plus apparente. Il y en avait une pire. « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous donc ? » murmura-t-elle. « Qu'avez-vous à faire avec mon mari ?» Il est étrange de constater que sur le moment, elle se rapprochait de lui en pensée comme si elle l'eût encore aimé. « Ah ! Je vois que vous prenez la chose sur le ton héroïque. J'en suis bien fâchée, mais ne croyez pas que je vous suive. » « Qu'avez-vous à faire avec moi ? » insista Isabelle. Madame Merle se leva lentement, en caressant son manchon, sans quitter des yeux le visage de sa victime. « Tout ! » répondit-elle. Isabelle la regardait sans bouger, avec une expression qui demandait de plus amples éclaircissements. Mais la lumière de ses yeux de femme n'était qu'obscurité. « Oh, misère ! » finit-elle par gémir, et elle se renversa en arrière en se couvrant le visage de ses mains. Sur elle déferlait comme une vague puissante la notion que Mrs. Touchett avait vue juste. Madame Merle l'avait bien épousée. Lorsqu'elle découvrit son visage, cette dame avait quitté la pièce. Isabelle sortit seule cet après-midi-là. Elle voulait s'en aller loin, sous le ciel, dans un endroit où elle pût descendre de voiture et marcher sur les pâquerettes. Il y avait longtemps qu'elle prenait la vieille Rome dans sa confidence, car dans un monde de ruines, la ruine de son propre bonheur faisait figure de catastrophe moins imprévue. Elle reposait sa lassitude sur des choses écroulées depuis des siècles et qui restaient pourtant debout. Elle confiait sa tristesse secrète au silence de lieux solitaires où son actualité s'objectivait mieux par contraste, si bien qu'assise en hiver dans un coin chaud de soleil ou dans la paix moisie d'une église qu'aucune présence ne troublait, elle arrivait à en sourire et à en apprécier la petitesse dans l'énormité des souvenirs de Rome. Puis son sentiment de la continuité des destinées humaines l'emportait forcément des plus petites aux plus grandes. Elle avait fait avec Rome une connaissance approfondie et amicale, et sa peine pour y être mêlée se trouvait atténuée. Elle en concevait surtout l'idée d'une ville où des êtres avaient souffert. C'était ce qui lui apparaissait dans les églises faméliques, dont les colonnes de marbre, empruntées à des ruines païennes, semblaient lui proposer un exemple d'endurance, et dont l'encens moisi était un composé de prières restées sans réponse. Il n'y avait pas d'hérétique, plus douce ou moins confirmée qu'Isabelle, le plus ferme des zélateurs, en extase devant un sombre tableau d'autel ou un brasier de cierge, n'aurait pas éprouvé plus profondément la signification de ces objets, ou mieux ouvert son cœur, en de tels moments, au commerce spirituel. Nous savons que pensée l'accompagnait presque toujours, et depuis quelque temps la comtesse Gemini, balançant son ombrelle rose, prêtait de l'élégance à leur équipage, mais elle se retrouvait seule lorsqu'elle en ressentait le besoin, et dans les lieux les plus propices à son humeur. Elle avait, pour de pareilles éventualités, plusieurs endroits de prédilection. Le plus accessible était le parapet bas, qui borde une large pelouse herbeuse, devant le haut et froid fronton de Saint-Jean de Latran, d'où la vue s'étend sur la campagne, jusqu'à la lointaine silhouette des monts Albins, et à cette plaine intermédiaire, si pleine encore de tout ce qui s'y passa. Après le départ de son cousin et de ses compagnons, elle avait erré plus qu'à l'ordinaire et porté sa tristesse de l'un à l'autre de ses sanctuaires familiers. Même lorsque Pensée et la comtesse Gemini l'accompagnaient, elle sentait le parfum d'un monde disparu. La voiture, laissant derrière elle les murs de Rome, roulait par des chemins étroits où le chèvrefeuille sauvage grimpait dans les haies ou s'arrêtait dans les champs paisibles et proches. Isabelle marchait sur la terre fleurie ou, assise sur une pierre qui avait eu jadis un usage, considérait, à travers le voile de sa tristesse personnelle, la tristesse splendide de la scène, la chaude et dense lumière, les gradations lointaines et les douces confusions de couleurs, les bergers immobiles aux muettes attitudes, les collines où l'ombre des nuages prenait la légèreté d'une rougeur de visage. L'après-midi dont je parle, elle avait décidé de ne pas penser à Madame Merle, mais sa résolution était vaine, et l'image de cette dame ne cessait pas de flotter devant elle. Elle se demandait, avec une horreur presque puérile pour une pareille supposition, s'il lui faudrait infliger à cette amie intime de nombreuses années la grande épithète historique d'infâme. Elle ne connaissait le terme que par la Bible et par d'autres ouvrages littéraires, et ne croyait pas s'être jamais trouvée en présence de l'infamie. Elle avait souhaité faire ample connaissance avec la vie humaine, et bien qu'elle se flattât d'y être assez bien parvenue, ce privilège élémentaire lui avait été refusé. Peut-être n'était-il pas infâme, au sens historique du mot, d'être profondément fausse, c'est-à-dire telle que l'avait été Madame Merle, profondément, profondément, profondément. Cette découverte, Mrs. Touchett l'avait faite depuis longtemps, et s'en était ouverte à sa nièce, mais Isabelle s'était flattée, à l'époque, d'avoir une vue beaucoup plus large des choses, surtout de la spontanéité de sa propre carrière et de la noblesse de ses propres interprétations, que la pauvre Mrs. Touchett, avec sa raideur d'esprit. Madame Merle avait réussi dans son désir en amenant l'union de ses deux amis, et l'on ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui lui avait fait tant souhaiter pareil événement. Il y a des gens qui ont la passion de faire des mariages, comme les fervents de l'art pour l'art, mais, pour artiste qu'elle fût, Madame Merle n'était pas de ceux-là. Elle avait trop pauvre opinion du mariage, trop pauvre opinion de la vie même. Elle avait désiré ce mariage particulier, et pas d'autre. Il fallait donc qu'il comportât pour elle une idée de profit, et Isabelle se demandait quel avantage elle en attendait. Il lui fallut naturellement longtemps pour s'en aviser, et encore sa découverte était-elle imparfaite. Elle se souvint que si Madame Merle lui avait témoigné de l'amitié dès leur première rencontre à Garden Court, elle s'était montrée doublement affectueuse après la mort de Mr. Touchett, et lorsqu'elle avait appris que sa jeune amie profitait de la libéralité du bon vieillard. Son profit, elle ne l'avait pas trouvé dans le grossier avantage d'un emprunt d'argent, Mais dans l'inspiration plus raffinée de faire participer un de ses intimes à la chance toute fraîche et toute spontanée de la jeune fille. Elle avait naturellement choisi le plus proche de ses amis, et il était déjà trop évident pour Isabelle que cette place était dévolue à Gilbert. Et ainsi, elle se heurtait à cette conviction que l'homme du monde qu'elle avait cru le moins soumis à des préoccupations sordides l'avait, comme un aventurier vulgaire, épousé pour son argent. Chose étrange, cette idée ne lui était encore jamais venue. Si elle pensait sans indulgence à Osmonde, elle ne lui avait pas encore fait cette injure. C'était pour elle le plus infamant des reproches, et elle songeait cependant qu'elle avait peut-être encore pis à apprendre. Un homme était parfaitement libre d'épouser une femme pour son argent, et la chose était fréquente. Du moins ne devait-il pas s'en cacher. Et puisqu'il l'avait épousée pour son argent, se contenterait-il de l'argent ? Consentirait-il à prendre la fortune en rendant la liberté à sa femme ? Ah, si la grande bonté de Mr. Touchett pouvait l'aider en cette épreuve, elle serait bénie à coup sûr. Isabelle songea que si Madame Merle avait voulu rendre service à Gilbert, sa reconnaissance avait dû vite perdre de sa chaleur. Quels devaient être aujourd'hui ses sentiments à l'égard de sa bienfaitrice trop zélée, et quelle expression pouvait-il trouver dans la bouche d'un tel maître de l'ironie ? Constatation singulière et bien caractéristique. Avant d'achever sa course solitaire, Isabelle rompit le silence par cette exclamation lancée à mi-voix. « Pauvre, pauvre Madame Merle !» Cet apitoiement aurait trouvé sa justification si, ce même après-midi, Isabelle avait pu se cacher derrière un des précieux rideaux de damas, aux teintes adoucies par l'âge, qui garnissait l'intéressant petit salon de la dame à laquelle avaient trait ses paroles. Dans cette pièce si soigneusement disposée, où nous sommes déjà entrés en compagnie du discret Monsieur Rosier, Gilbert Osmonde était assis vers 6 heures, et son hôtesse gardait devant lui l'attitude où l'avait vue Isabelle, dans des circonstances rapportées au cours de ce récit, avec une emphase moins appropriée à son importance apparente qu'à sa signification profonde. « Je ne crois pas que vous soyez malheureux. Je crois que vous prenez plutôt plaisir à la situation, » disait Madame Merle. « Me suis-je plaint d'être malheureux ?» demanda Osmonde, avec une expression assez grave pour faire croire qu'il eut des raisons de l'être. « Non, mais vous ne dites pas le contraire, comme vous le commanderez la plus simple gratitude. »« Ne parlez pas de gratitude, » répliqua-t-il sèchement, « et ne m'agacez pas, » ajouta-t-il, après un moment de silence. Madame Merle s'assit lentement, les bras croisés et les mains disposées comme pour soutenir d'un côté l'un de ses bras et servir pour ainsi dire d'ornement à l'autre. Elle semblait parfaitement calme et profondément triste. « De votre côté, ne cherchez pas à m'effrayer. Je me demande si vous pouvez comprendre certaines de mes pensées. »«
Je m'efforce de ne pas m'en préoccuper. J'ai déjà bien assez des miennes. »«
Sans doute parce qu'elles sont agréables. » Osmonde posa la tête contre le dossier de son fauteuil et regarda son ami avec une fixité cynique qui était aussi, pour une part, une impression de lassitude. « Vous me poussez à bout, » fit-il observer, « et je suis si fatiguée. » « Et moi donc ?» s'écria Madame Merle. « Vous, c'est parce que vous cherchez la fatigue. Moi, ce n'est pas ma faute. »« Quand je me fatigue, c'est pour vous. Je vous ai donné un intérêt dans la vie. C'est un beau cadeau. »«
Vous appelez cela un intérêt ?» demanda Osmonde d'un ton détaché.
« Certainement, puisque cela vous aide à passer le temps. »«
Le temps ne m'a jamais paru plus long que cet hiver. »«
Vous n'avez jamais été plus à votre avantage, aussi aimable et aussi brillant. »
« Maudite amabilité » murmura-t-il d'un air morose. « Comme vous me connaissez mal, somme toute. »«
Si je ne vous connais pas, je ne connais rien, » riposta Madame Merle avec un sourire. « Vous avez la satisfaction d'un succès complet. »«
Non, je ne l'aurai pas avant que vous ayez cessé de me juger. »«
J'y ai renoncé depuis longtemps. Je parle par vieille expérience. D'ailleurs, vous vous manifestez davantage. »
Osmonde eut un moment d'hésitation.
« Je voudrais bien que vous vous manifestiez moins, vous. »
Vous voulez me condamner au silence. Rappelez-vous que je n'ai jamais été un moulin à paroles. En tout cas, il y a 3 ou 4 choses que je voudrais d'abord vous dire.
Votre femme ne sait à quel saint se vouer, reprit-elle avec un changement de ton.
Pardonnez-moi, elle le sait parfaitement. Sa ligne de conduite est bien nette et elle se conforme à ses idées.
Ses idées doivent être bien remarquables aujourd'hui.
Elles le sont certainement et elle en a plus que jamais.
Elle n'en a pas trouvé une seule à mon intention ce matin, répondit Madame Merle. Elle paraissait en proie à un état d'esprit très simple et presque d'hébétude. Elle était absolument stupéfiée.
Dites tout de suite qu'elle était pathétique.
Ah non, je ne veux pas vous donner trop d'orgueil. Il renversait toujours la tête sur le coussin de son dossier, un pied posé sur un genou.
Il demeura un moment dans cette posture. « Je voudrais savoir ce que vous avez aujourd'hui, » finit-il par dire.
« Ce que j'ai.
Ce que j'ai. » Madame Merle parut ne pouvoir en dire davantage. Puis, dans une explosion soudaine de passion, coup de tourmente dans un ciel serein d'été. « Ce que j'ai, c'est que je donnerai ma main pour pleurer et que je ne le puis pas. »«
Quel bien cela vous ferait-il ? » ?»«
Cela m'aiderait à sentir ce que je sentais avant de vous connaître. »
C'est quelque chose d'avoir séché vos larmes. Jamais je ne vous ai vu en répandre.
Oh, je pense bien que vous me ferez encore pleurer, hurler comme une louve plutôt. J'en éprouve un grand désir, un grand besoin. J'ai été vile ce matin, atroce.
Si Isabelle se trouvait dans l'état d'esprit que vous dites, elle n'a pas dû s'en apercevoir, répondit Osmonde.
C'est ma méchanceté même, ma malice diabolique qui l'a stupéfiée. Je n'ai pas pu résister, je me sentais pleine de mal. Peut-être était-ce pour un bien, je ne sais. Vous n'avez pas seulement séché mes yeux, vous m'avez desséché l'âme.
Ce n'est donc pas moi qui suis responsable de l'état de ma femme, dit Osmonde. J'ai plaisir à penser que j'aurai le bénéfice de votre action sur elle. Ne savez-vous pas que l'âme est un principe immortel? Comment pourrait-elle changer?
Je ne crois pas du tout que ce soit un principe immortel, et j'ai la conviction qu'on peut parfaitement la détruire. C'est ce qui est arrivé à la mienne, qui était largement en état de me conduire dans la vie. C'est vous qu'il me faut remercier de ce service. Vous êtes très méchant, conclut-elle avec un accent de gravité sous son apparente emphase.
Est-ce ainsi que nous devons en finir ? Demanda Osmonde, avec la même froideur étudiée.
Je ne sais pas comment nous en finirons. Je voudrais le savoir.
Comment finissent les méchants ? Surtout en ce qui concerne leurs crimes communs ?
Vous m'avez faite aussi méchante que vous-même.
Je ne vous comprends pas. Vous me semblez bien assez bonne, dit Osmonde, dont l'indifférence volontaire accentuait de terrible façon ses paroles.
Madame Merle, au contraire, sentait diminuer son sang-froid, et elle était plus près de le perdre qu'en aucune des circonstances où nous avons eu le plaisir de la rencontrer. L'éclat de ses yeux s'assombrissait. Son sourire trahissait un douloureux effort.
« Assez bonne pour ce que j'ai fait de moi-même. Je suppose que c'est cela que vous entendez. »
« Assez bonne pour être toujours charmante, » fit Osmonde, en répondant à son sourire.
« Oh Dieu !» murmura sa compagne.
Et assise là dans sa fraîche maturité, elle eut recours au geste même qu'elle avait provoqué le matin chez Isabelle. Elle pencha le visage et le couvrit de ses mains.
« Allez-vous finir tout de même par pleurer ?» demanda Osmonde.
Et comme elle restait immobile, il poursuivit.
« Me suis-je jamais plaint de vous ?»
Elle laissa vivement tomber ses mains.
« Non, vous vous êtes vengé autrement, vous vous êtes vengé sur elle. »
Osmonde, renversant plus loin encore la tête, se mit à considérer le plafond, et l'on aurait pu croire qu'il s'adressait de façon familière aux puissances célestes.
« Oh, l'imagination des femmes, elle est toujours vulgaire au fond. Vous parlez de vengeance comme un romancier de troisième ordre. »
« Évidemment, vous ne vous êtes pas plaint, vous avez trop joui de votre triomphe.
Je suis assez curieux de savoir ce que vous appelez mon triomphe.
Vous vous êtes fait craindre par votre femme. »
Osmonde changea de position, se pencha en avant, les coudes aux genoux et les yeux posés sur un beau tapis de perse à ses pieds. Il avait l'air de ne pas vouloir accepter l'appréciation d'autrui sur quelque sujet que ce fût, voire sur le temps, et de s'en tenir obstinément à la sienne, particularité qui rendait souvent sa conversation exaspérante.
« Isabelle n'a pas peur de moi, et je ne le désire pas, » fit-il enfin. « Ou prétendez-vous me pousser en disant de pareilles sottises ?»
« J'ai pensé à tout le mal que vous pourriez me faire, » répondit Madame Merle. « Votre femme a eu peur de moi ce matin, mais en ma personne, c'est vous en réalité qu'elle craignait.
Si vous lui avez dit des choses de très mauvais goût, il ne faut pas m'en rendre responsable. Je ne voyais pas la nécessité que vous alliez la voir. Vous êtes bien capable d'agir sans elle. Je n'ai pas su, à ce qu'il me semble, me faire redouter de vous. Comment y serais-je parvenu avec elle ? Vous êtes au moins aussi brave qu'elle. Je ne sais pas où vous avez pu ramasser toutes ces sornettes. Vous devriez pourtant me connaître depuis le temps. »
Il s'était levé en marchant et dirigé vers la cheminée, devant laquelle il resta un moment penché, les yeux fixés, comme s'il les avait vus pour la première fois, sur les échantillons délicats de porcelaine précieuse dont elle était couverte. Il prit une petite tasse et la tint dans sa main, puis, sans la lâcher et le coude appuyé sur le manteau de la cheminée, il continua. « Vous en voyez toujours trop en toutes choses. Votre exagération vous fait perdre de vue la réalité. Je suis beaucoup plus simple que vous ne le croyez. »«
Je vous crois très simple, en effet, » répondit Madame Merle, sans perdre sa tasse des yeux. « Je suis arrivée à cette conviction avec le temps. Il y a longtemps, je le répète, que je vous ai jugé, mais c'est seulement depuis votre mariage que je vous comprends. J'ai vu ce que vous avez été pour votre femme, mieux que je n'avais jamais vu ce que vous étiez pour moi. Faites bien attention, je vous prie, à ce précieux objet. »
Il a déjà un soupçon de minuscule fêlure, répondit sèchement Osmonde en reposant la tasse. Si vous ne m'aviez pas compris avant mon mariage, c'était une cruelle témérité de votre part que de me mettre dans un pareil étouffoir. À vrai dire, j'y avais pris goût moi-même et m'attendais à y trouver mes aises. Je n'exigeais pas grand-chose, je ne demandais qu'à lui plaire.
Qu'à lui plaire infiniment ?
Infiniment, si vous voulez. En pareil cas, on attend le maximum. À être adoré d'elle, je vous le concède, oui. C'est bien ce que j'espérais.
Moi, je ne vous ai jamais adoré, dit Madame Merle.
Vous le prétendiez, tout au moins.
Il est vrai que vous ne vous êtes jamais attendu à trouver vos aises près de moi.
Ma femme s'est refusée à tout ce que je lui demandais, fit Osmonde. Si vous êtes décidé à fonder une tragédie sur ce fait, ce n'est pas elle que la tragédie affectera.
Ce n'est pas elle, c'est moi, s'écria Madame Merle, qui se leva avec un long et profond soupir, sans quitter cependant de l'œil les objets de sa cheminée. Je crains d'apprendre de façon un peu rude les inconvénients d'une position fausse.
Voilà du style de modèle d'écriture. On cherche sa consolation où on la trouve. Si ma femme ne m'aime pas, ma fille m'aime, elle. Je trouverai une compensation chez Pensée. Heureusement, je ne lui découvre pas le moindre défaut.
Ah, fit doucement Madame Merle, j'avais une fille.
Osmonde attendit, puis d'un ton cérémonieux.
On s'intéresse volontiers aux enfants du voisin, déclara-t-il. Vous imitez mieux que moi le style des colliers. En somme, il nous reste quelque chose pour nous lier l'un à l'autre.
Serait-ce l'idée du mal que je puis vous faire ? Demanda Osmonde.
Non, c'est l'idée du bien que je puis faire pour vous. C'est cela qui m'a rendue si jalouse d'Isabelle. Je veux que ce soit mon œuvre à moi, ajouta-t-elle, et son visage, qui s'était fait dur et amer, revint à son habituelle douceur.
Osmonde prit son parapluie, donna deux ou trois coups de manche à son chapeau, puis
« En définitive, dit-il, vous feriez mieux de vous en remettre à moi. »
Dès qu'il fut parti, elle alla prendre sur la cheminée la petite tasse où il avait signalé l'existence d'une fêlure, mais ne lui accorda qu'une attention discrète.
« Ai-je donc été si vile en vain ? » gémit-elle vaguement.